Trigger warning. Cet épisode aborde le sujet de la mort. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter.
Hello.
Coucou.
J'ai l'impression qu'on en est au même moment dans notre journée.
Salut les écouteurs et les écouteuses. Je suis Marine Rowe, la productrice de Vieille Branche. Vous vous apprêtez à écouter un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, pas d'invité de plus de 70 ans à notre micro, mais Marie Misset, en compagnie de Taous Merakchi, autrice de l'émission Mortel. D'un côté, il y a Taous, qui dans ce podcast de Nouvelles Écoutes, brise le tabou autour de la Grande Faucheuse en partant de sa propre fascination pour le sujet. De l'autre, il y a Marie, terrifiée, qui cherche des solutions auprès de ses invités plus âgés et donc peut-être plus sages. Comment l'appréhender? Comment ne pas en avoir peur? Comment s'y préparer? Comment profiter de la vie en sachant qu'elle peut se terminer à tout moment? À Nouvelles Écoutes, on a eu envie de les réunir toutes les deux sur la scène du Paris Podcast Festival qui s'est déroulé le 17 octobre 2020. Ensemble, elles ont discuté de leur rapport à la mort, de comment leurs émissions respectives leur ont appris à mieux l'appréhender, à la dédramatiser, à y réfléchir sans panique et aussi parfois à en rire. Bonne écoute.
Tu aimes la mort.
Oh oui. Et toi, t'as peur de la mort donc.
C'est vraiment, c'est ma mort qui me fait flipper, c'est pas trop celle des autres.
Vous avez peur de la mort ?
Vous avez pas peur de la mort ?
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? Vous vous sentez comment là ?
Est-ce que vous avez peur de la mort ?
Ça va ?
Je suis Marie Misset.
Je suis Taous Merakchi.
Vous écoutez Vieille Branche.
Bienvenue dans Mortel.
Non, j'ai pas peur de la mort.
Personne ne dit oui, j'ai peur de la mort et je trouve ça quand même très étonnant.
Est-ce que vous avez peur de la mort ?
Et pour moi, la mort, c'est pas romanesque.
Elle était toujours là.
D'apprivoiser la mort ?
Par-dessus notre épaule.
Peut-être de la regarder un petit peu en face ?
À guetter nos moindres faits et gestes.
J'ai jamais eu peur de la mort, à vrai dire. Quand j'avais votre âge, je n'avais pas peur de la mort.
Je sais, je sais. Voilà. C'est juste ce qui m'embête.
La vie est un voyage, et la mort en est un autre.
C'est pas le rapport à la mort, c'est une question intéressante.
On peut même dire que les deux font partie du même voyage.
L'au-delà.
Voir ça comme ça, plutôt que comme une fin brutale et cruelle.
De toute façon, le temps où on vit,
ça peut aider à mettre un peu les choses en perspective.
Une fois que je serai morte, ben, je serai morte.
Voilà, on s'est réveillé ce matin, Taous et moi, en se disant qu'on avait parlé pendant une heure de la mort à des gens. Je suis donc Marie Misset, moi je suis donc la présentatrice de Vieille Branche, vous venez de l'entendre. Par ailleurs, je suis rédactrice en chef à Radio Nova, que vous connaissez peut-être aussi. Je ne sais pas exactement pourquoi Laura Cuissard de Nouvelles Écoutes est venue me chercher, moi, pour présenter Vieille Branche. J'ai repris la deuxième saison, on en est à la quatrième maintenant. Mais je crois qu'elle savait que j'aimais beaucoup, beaucoup parler aux vieilles personnes. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup parler aux vieilles personnes. J'imagine qu'on va parler un peu de ça ensemble aujourd'hui. Et puis, un des premiers podcasts que j'ai écouté, moi, podcast natif pour de vrai, c'était Mortel de Taous. Donc, tout est lié.
Bonsoir. Je suis extrêmement à l'aise, comme d'habitude, pour les événements en public. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu en public, vous allez le découvrir, ça va être cool. Je m'appelle Taous Merakchi, je suis autrice. J'ai été contactée... pour animer Mortel, parce que ça leur a paru comme une évidence. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui les a mis sur la voie. Je sais pas pourquoi ils ont pensé Taous Merakchi, mort, ça va bien ensemble. Mystère. Mais en tout cas, j'étais ravie qu'après des années à ne parler que de la mort et de films d'horreur et de trucs sanglants sur Internet, quelqu'un se soit dit j'ai peut-être une idée. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à animer Mortel, alors que j'avais jamais prévu de faire un programme sur la mort de ma vie, ni de faire un podcast non plus. Mais finalement, je suis très très contente de ce qu'on a réussi à faire. Donc voilà. Et je le dis tout de suite pour pas oublier de le dire à la fin. Le livre Mortel sortira le 4 novembre prochain. Parce que j'avais encore des choses à dire sur le sujet, visiblement.
Mais d'ailleurs, Taous, c'est le premier truc que je voulais vérifier avec toi, mais tu me l'as redit tout à l'heure, que tu signes avec ton vrai nom.
Oui, c'est le premier projet que je fais sous mon vrai nom. Tout le reste, je l'ai fait sous le pseudonyme de Jack Parker, sous lequel j'officie sur Internet et ailleurs depuis plus de 10 ans. Et là, je me suis dit en fait que c'était un projet tellement personnel que je ne pouvais pas le faire. Enfin, Jack Parker qui raconte la mort de son père, ça n'a aucun sens parce que Jack Parker n'a pas de père. C'est une entité, c'est autre chose. Et ça m'aurait paru assez hypocrite de parler d'un truc aussi
intime,
aussi intime et viscéral sous un pseudonyme.
Je crois qu'on a des petits sons à vous faire écouter pour ce chapitre 1 où on va s'intéresser à pourquoi est-ce que la mort ça t'a tant passionné depuis le début. Jack Parker, Taous Merakchi. Je crois que c'est le son 1, ouais.
J'ai passé toute ma vie, dès la maternelle, à l'entendre me mettre en garde contre sa propre mort. Il me répétait sans arrêt qu'il ne vivrait pas très vieux, qu'il verrait sûrement pas mes enfants, sous-entendant que ça pouvait arriver demain, après-demain, ou dans 5 minutes.
L'émotion est là, hein ?
Il a fait de la mort une entité quasiment palpable et omniprésente. Et quand on parlait pas de la sienne, on parlait de celle des autres. On passait des heures dans les cimetières, on regardait des photos de scènes de crimes ensemble, on cherchait la date de décès des gens célèbres. Elle était toujours là, par-dessus notre épaule, à guetter nos moindres faits et gestes. Quand il m'a emmené voir le 7e saut de Bergman, quand j'avais quelque chose comme 2 ou 3 ans, parce que oui, c'était ce genre de père, j'en suis sorti en lui disant... Dis papa, tu m'emmèneras voir une mort ?
Voilà.
L'ambiance est posée.
C'était quoi toi ton tout premier rapport à la mort, justement réel ?
Alors la première fois que j'ai été confrontée autrement que comme cette fameuse entité mystique qu'on avait construite avec mon père, c'était à la mort d'un de mes grands-oncles que j'avais à peine connu, quand j'avais 11 ou 12 ans. Et donc j'étais là pour la levée du corps, c'est la première fois que je voyais un corps mort, et j'avais l'impression que, comme beaucoup de gens, que c'était une statue de cire, parce que c'est très jaune, c'est très figé, c'est décédé, donc c'est normal. J'avais pas du tout d'attachement à ce corps-là, parce que la personne qui l'avait habité m'était assez étrangère, mais j'ai pu observer, du coup, me mettre en retrait et observer ce que c'était qu'un rite funéraire, un vrai, pas comme à la télé ou pas comme moi je l'imaginais. Et c'était pas fun, mais il y a un geste que j'ai trouvé très beau, c'est un de mes oncles à qui mon grand-oncle avait demandé des cigarettes à l'hôpital parce qu'il était en train de mourir d'un cancer des poumons ou un truc dans le genre, et mon oncle lui avait refusé parce que ça lui a paru logique sur le coup de se dire en fait t'es en train d'en mourir, donc non, sauf que c'était déjà trop tard, donc c'était pas ça qui allait changer grand chose. Et en fait il a regretté, il s'en est voulu et il a glissé des cigarettes sous l'oreiller de son cercueil, et j'ai trouvé ça trop beau. Et je me suis dit, mais en fait, cette cérémonie-là, en plus, vraiment, c'était un cliché dans un funérarium de banlieue sous la pluie, c'était moche, horrible. Et il y a eu ce geste-là où je me suis dit, en fait, même avec les restrictions qu'on a, nous, en France, ça, j'y ai pensé plus tard, hein, où on peut pas trop faire des trucs hyper fun et spectaculaires en termes d'obsèques, il y a quand même des choses qui font que chaque rite est différent, chaque enterrement est différent, qu'il y a quand même de l'intime qui peut se partager dans ces moments-là, et j'ai trouvé ça super beau.
Qu'il y avait un côté où on pouvait un peu réparer les choses même quand
ouais,
c'était fini.
Ouais. Parce que c'est, en vrai, c'est la personne qui est morte, elle s'en fout de pas avoir eu de clope une fois qu'elle est morte, c'est pas très important. Mais par contre, mon oncle, c'est un truc qu'il aurait pu porter toute sa vie. C'est-à-dire, putain, je lui ai pas donné de cigarette. Mais bon, moi, voilà, je lui en ai lâché quelques-unes pour le voyage. C'est déjà ça. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et ironiquement, cet oncle est mort l'année dernière. Et c'est moi qui ai mis des cigarettes dans son cercueil cette fois-là, parce qu'il était aussi en train de mourir. En gros, fumez pas trop, hein, c'est ça la morale de l'histoire, ça tue vraiment, c'est vraiment pas cool. Mais voilà, j'ai pu reproduire ce geste qui était plus comme un écho à cette histoire-là que comme une vraie... Parce qu'il s'est pas empêché de fumer à l'hôpital, lui, il n'y avait pas d'histoire comme ça, mais voilà, j'ai voulu faire...
Reproduit ton propre rituel.
Voilà, exactement, je trouvais ça... Je dis, allez, vas-y, je me fais un kiff.
Et toi, ça se manifestait comment ? Parce que ça veut dire quoi, j'étais obsédée par la mort, à part, moi, si on a entendu en plus, t'as visité des cimetières beaucoup quand t'étais petite avec ton père.
Bah, c'est ça, en fait, c'est juste que je cherchais la mort dans tout ce que je faisais. et tout ce que je consommais, mais pas la morbidité, le côté macabre et la recherche du décès. C'est venu beaucoup plus tard avec la dépression. Parce que quand j'étais enfant, c'était vraiment, comme ma mère le dit, je crois qu'on l'entend, on entend un extrait de ma mère dans Mortel à un moment qui dit « c'était comme le Père Noël ou la petite souris, pour toi la mort ». Effectivement, j'en avais créé une espèce d'entité mythique, la fameuse grande faucheuse. J'adorais cette image-là, je trouvais ça trop cool. Et j'avais envie qu'elle m'emmène avec elle, mais pas pour toujours, juste on va faire un voyage pendant la nuit, quoi. Et du coup, je cherchais cette ambiance-là partout, parce que je saurais pas comment l'expliquer. Si, avec le père que j'ai eu, bien sûr que je sais comment l'expliquer, c'est pas sorti de nulle part, mais ça m'a toujours paru évident et naturel comme rapport. C'est-à-dire que il n'y a pas un événement dans ma vie qui a fait « Ok, je vais m'intéresser à la mort à partir de maintenant. » Ça fait partie de ma nature depuis toujours. Quoi.
Et toi, tu t'es demandé pourquoi lui, il était hanté comme ça. Comment ça se faisait que ce soit si présent dans la vie et qu'en plus, il te l'ait transmis, gosse.
Parce que mon père était un homme très particulier, extrêmement narcissique. Et je pense que ça va de pair. Que quand on a des petits problèmes d'ego, en général, on est assez obsédé par sa mort aussi, son existence, ce qu'on va léguer, machin. Et du coup, à travers moi, il pouvait créer un personnage grandiloquent qui était mon père, l'entité père que c'était, et qui avait un côté un peu mystique, un peu dark. Et je pense que le reflet qu'il voyait dans mes yeux lui plaisait énormément. Et en fait, c'était lui ma grande faucheuse, quoi.
Et alors moi, c'était complètement différent parce que c'est une terreur, mais d'enfant.
Mais oui, mais c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. C'est qu'en fait, si on nous a mis face à face à la base, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y en avait une qui était « Ouh, la mort, c'est génial !» Et toi, pas trop, trop.
Ben moi, en fait, c'était pas la mort le problème, c'était l'immortalité. C'était le délire de se dire qu'il y avait un truc qui ne s'arrêterait jamais. Enfin, c'était l'impossibilité de penser le truc. Et mais quand j'étais petite, ça m'a fait vomir plusieurs fois. C'est-à-dire que mes parents... jusqu'à ce que je vomisse, trouvaient ça très très drôle. Après ils ont arrêté, ils se sont dit que c'est peut-être un peu violent ce qu'on lui inflige, mais ouais, c'était une terreur, quoi, de l'ordre, enfin, complètement irrationnel et sur lequel je peux pas mettre tellement de plus de mots que ça, qui était juste je peux pas le penser. Donc on devine que j'ai grandi dans un truc religieux, puisque la mort ça allait avec l'immortalité forcément. Et je pouvais pas penser l'immortalité. Un truc qui se finit pas, c'était impossible. Et c'était vertigineux. Et d'ailleurs, je peux toujours pas trop regarder les étoiles ou, enfin, tout ce qui est univers et tout, les gens qui veulent aller dans l'espace, pas du tout. Donc, voilà. Donc moi, c'était vraiment l'immortalité le problème. Et en fait, en discutant avec Taous, on s'est rendu compte qu'elle aussi, c'était le problème, l'immortalité. Parce qu'en fait, toi, t'avais envie que ça s'arrête.
Oui, c'est vraiment, je vous en supplie, s'il vous plaît, qu'on fasse pas ça pendant 1000 ans. Parce que, enfin, quand on voit toutes les articles hyper accrocheurs, clickbait, qui sortent en disant la personne qui vivra plus de 1000 ans est déjà née. Déjà, j'y crois bof. Et en plus, dans quelles conditions? Parce que. Enfin bref, moi, j'aime pas, je déteste. S'il vous plaît, laissez-moi mourir, je vous en supplie. De ma belle mort, hein, dans longtemps, mais l'idée qu'un truc se finisse pas, pour moi, ça perd son sens. J'ai déjà du mal à faire des trucs, j'ai déjà du mal à me lever le matin parfois. Bon, depuis que je suis mère, un peu moins. Pas le choix. Mais si en plus on me dit que j'ai l'éternité pour laver mes chaussettes, jamais je lave mes chaussettes, c'est sûr.
Et toi, du coup, est-ce que t'as vu le... Parce que tu disais tout à l'heure, on peut réparer des choses après la mort. Est-ce que, du coup, le podcast Mortel, ça t'a permis de réparer des choses après la mort de...
Oh oui, parce qu'il y a plusieurs éléments dans la mort de mon père que j'avais pas trop digéré. Déjà, le fait qu'on était brouillés, on se parlait pas depuis 3 ans quand il est mort. On s'est vu vraiment la veille de sa mort. Il était censé avoir un mois et demi encore de rab, et il est mort le lendemain. D'un autre côté, tant mieux, parce qu'il avait déjà commencé à me saouler. Il avait déjà commencé à me dire « Ouais, il faudra que tu fasses ci, puis il faudra que tu fasses ça, et puis avant de mourir, surtout, il faudra que je fasse... Oh, ça va être chiant, ça va être long, ça va être chiant. » Et finalement, le lendemain, je me suis dit « Oh, c'était un peu court. » Mais bon, voilà, c'est très, très symbolique de notre relation. Et en fait, de pouvoir raconter tout ça, de pouvoir réanalyser tout ça, ça m'a permis, un, moi, de faire la paix avec pas mal de trucs, et deux, de régler un des pires trucs du deuil, qui est la solitude. C'est, je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie que quand j'étais en deuil. Et là, je pouvais le partager avec des centaines, peut-être des milliers, oui, quand même, de personnes. Et je reçois encore aujourd'hui régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours, des messages de gens qui ont écouté Mortel et qui me remercient et qui me disent eux aussi qu'ils se sont sentis moins seuls grâce à ça. Et pour moi, c'est la plus grande victoire de ce podcast-là. C'est vraiment le réussir à fédérer autour d'un truc où normalement, t'es vraiment tout seul dans ton fossé, dans ton trou là. Et tout le monde te fait... Bah alors, tu sors quand ? Bah, laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît. Mais ça fait 3 mois, là. Oui, bah non. C'est long, c'est très très long, un deuil. Et ça m'a permis aussi de faire la paix avec ça, justement, la longueur du deuil et d'accepter que bah, c'est normal de souffrir autant et aussi longtemps, quoi.
Mais d'ailleurs, un truc, moi, qui m'avait choqué pendant les premières morts, moi, j'ai pas perdu quelqu'un de très cher, j'ai perdu des amis, etc. Mais le truc. Qui était incompréhensible, c'est la vie qui reprend avec une rapidité incroyable. Où moi, j'en ai fini par aller sur les comptes Facebook ou Instagram d'amis qui étaient décédés pour me rappeler qu'ils étaient morts. Tellement ouais. La vie a pris vite son cours, tellement les gens, effectivement, s'arrêtent, et c'est pas de leur faute, hein, on est tous comme ça, s'arrêtent un jour, 2 jours, te disent ça va et tout, et puis ça reprend. Et c'est vrai que pour moi, la solitude, elle se niche là, elle se niche dans. Ton truc s'est arrêté, le tien s'est arrêté comme ça, et tu vois tout le reste des gens qui continuent à marcher autour de toi, à avancer. Et ça fait vraiment partie, je pense, de la solitude du deuil, et que t'as pu un peu exorciser avec Mortel.
Ah ouais, parce que ça, c'était... En plus, moi, je suis tombée dans une dépression ultra profonde, où vraiment, tous les matins, je me disais, mais pourquoi je vis encore ? Ça ne sert à rien, je vais aller dormir en attendant que ce soit l'heure d'aller dormir. Et ma vie n'était qu'un éternel recommencement de sieste et de sommeil nul, en plus, où je rêvais toutes les nuits que mon père me disait « En fait, je suis pas mort. » Ah, si, il est mort. Ok. Faut recommencer tous les jours le même processus de deuil. Pour l'instant, là, j'avais ma vie de couple qui était en train de partir en sucette. J'avais mes potes qui me disaient « Bon, t'as où, toi ? Non, je sais pas. Pas bien en ce moment. » Sans déconner ! Donc ouais, ça m'a aidé de pouvoir faire ça. Et après, j'ai pu justement avoir des conversations avec toutes ces personnes-là, tous mes proches, et qui puissent me dire « Ah, mais en fait, on n'avait pas... » Je dis « Bah oui, non, vous n'aviez pas, non. » Mais c'est normal, parce que c'est ce que dit le psychologue Christophe Forêt, le psychiatre Christophe Forêt dans l'épisode sur le deuil. Où est-ce qu'on apprend le deuil, à part quand on y est confronté ? Il n'y a rien qui t'y prépare.
Et c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, je pense que tu peux aider des gens que si toi, tu l'as déjà vécu.
Et voilà,
il y a ça. Et après, quand tu le veillis, tu fais « Ah, merde ! Ah, bah, Taous, ouais, je comprends maintenant. »
Ouais, voilà. Mais il y a des gens, justement, qui sont venus voir en me disant « Ah, c'était ça que tu voulais dire quand tu disais que la vie n'avait plus de sens et que tu voulais décéder ?» Oui, c'est ça, exactement. C'est sympa, hein ? Donc, mais moi aussi, ça m'a appris à être plus compatissante et à savoir quoi dire quand quelqu'un me fait part du décès d'un proche. T'as plein de trucs, notamment, enfin, le sujet sur lequel j'ai le plus appris, c'est le deuil périnatal. Vraiment, le tabou ultime dans un tabou, où en fait, je savais pas comment tu communiques avec une personne qui passe par ça. Enfin, c'est encore plus difficile, t'as même pas les formules à la con du deuil classique, entre guillemets. C'est, y a rien. Et là, j'ai appris à parler aux gens que ça concernait, j'en avais dans mon entourage, et je me suis dit, ok, j'ai pas été à la hauteur. Donc comme quoi aussi, ça m'a permis de faire preuve un peu d'humilité.
C'est fou d'ailleurs, dans cet épisode de Mortel, il y a cette nana qui raconte que ses collègues ont arrêté de lui parler, tellement ils ne savaient pas quoi lui dire.
Mais ça sidère, ouais. C'est vraiment... Mais ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens qui m'en ont fait part, mais pas forcément dans le cadre du deuil périnatal, même s'il y a, ça, il y a vraiment un truc de... Je ne veux pas toucher à ce sujet. Et en même temps, c'est normal, c'est flippant, c'est horrible, c'est contre nature... Et c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver. Mais pire encore, c'est emmurer les gens dans le silence et dans leur douleur. Ça va, t'es à l'aise, toi, là ?
Ouais, ça va, je pense que c'est la première partie sur le passé. On va peut-être passer au présent. Non, mais parce que je pense que pour toi, comme pour moi, le podcast, ça a permis beaucoup de choses, en tout cas de démêler et de détricoter. Ouais.
Mais parce que toi, t'en as tiré quoi de parler avec des gens qui sont très, très proches de la mort
La plus âgée, elle avait 94 ans, Sabine Weiss, elle est toujours très vivante. Bah, je propose qu'on passe du coup à la deuxième partie, parce qu'on va entendre des bouts de vieilles branches, comme de Mortel, je crois. Yes.
Le trac peut encore me surprendre. C'est sournois, le trac. Mais ça ne me surprend pas souvent, maintenant. Maintenant, je me domine mieux. Je sais plus travailler, Je grandis.
Vous arrêtez pas de grandir.
Ah ouais, j'arrête pas de grandir. Et puis vous savez, j'ai mis du temps, hein. J'ai du retard à rattraper.
Vous avez comment ça?
Mais parce que c'est très long tout ça. C'est très 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 long à apprendre, à comprendre. Et ce qui est très très long et qui est assez désespérant, c'est qu'on n'arrive pas à intégrer ce qu'on sait. Ça prend du temps ça aussi. Une fois qu'on sait les choses, on ne les a pas encore intégrées.
Et vous avez l'impression qu'il y a eu un déclic à un moment? Comme vous dites, ça a été très long ou c'est juste
non,
que...
Non, il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic, les choses arrivent.
Ça processe.
Oui.
C'est exactement ça la réponse en plus, c'est que ça processe. Non, mais c'est vrai. Vous avez peut-être reconnu l'actrice de 10%. Mmh. Et, c'était un super épisode où elle a un rapport à la mort d'ailleurs assez passionnant. Elle m'a fait acheter du Spinoza que je n'ai jamais lu. Elle m'a dit tu vas voir, ça va tout changer. Du coup elle m'a dit après écoute Deleuze qui parle de Spinoza, et c'est là que je me suis dit ça processe parce que je suis pas encore prête à écouter Deleuze qui parle de Spinoza.
Mais pourquoi?
Bah, intellectuellement je suis pas
prête. Ah oui d'accord, oui, okay.
C'est une histoire de d'intelligence. Non bah
c'est bien de le reconnaître.
De manque d'intelligence. Non mais j'ai confiance, bah, on n'arrête pas de grandir. Bah non mais tu croises des gens qui ont 70, 75, 90 ans et qui sont tellement dans la vie, mais vraiment j'en ai pas. Après, j'ai la chance moi d'interviewer des gens qui ont effectivement eu des vies très riches, qui ont vécu des drames, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont dans des vies où ils sont pas amers, ils sont pas, ouais. Voilà, ils regrettent pas des choses de leur vie parce que c'est tous des gens qui ont quand même vécu des sacrés trucs et qui ont des trucs à raconter. Mais ils sont tous tellement dans la vie avec un truc que tu croises chez tous, qui est une curiosité insatiable. Et moi c'est ce que je me suis dit, parce que autant peur de la mort, j'avais peur de vieillir. Je me disais c'est horrible, tu perds tes potes, tu perds tes parents, ensuite, enfin voilà. Et ça, il y en a une femme que j'ai interviewée il y a pas longtemps, l'épisode va sortir, Georges Paul Angevin, qui a dit oui, c'est un petit peu comme t'es quelque part et puis les lumières s'éteignent les unes après les autres. Et ça l'image est un peu triste et c'est ça qui me terrifiait. Et en fait de parler j'ai les noms qui m'échappent, ça m'énerve. De parler avec les vieilles branches aussi nombreuses, elles sont dans un truc où la curiosité, être toujours en avant, ne pas regarder en arrière et surtout avoir toujours une soif de sujet, de... comment elle s'appelle, Michel Perrault, 90 ans, elle écrit des livres. Elle écrit des livres à 90 ans, et puis elle a des projets sur 10 ans, quoi. Elle se dit pas, ça va tomber un moment. Elle se dit, bon, bah, tant que j'écris, j'écris, ou celle qu'on entendait, aidez-moi, Liliane, vous connaissez son nom de famille, Liliane Rovert. Pareil, elle a 1000 films qui l'attendent, et puis elle lit tous les jours des nouveaux livres, et puis quand elle n'arrive pas à voir, elle en écoute, et je me suis dit qu'en fait, le secret, c'était de laisser les porte ouverte, enfin, c'était de pas laisser grandir les murs. Et il y en a une qui raconte hyper bien ça, qui s'appelle Chantal Thomas, qui est pas celle qui fait des soutifs et des culottes, mais une écrivaine qui a fait beaucoup de choses. Il y a un livre sur New York qui est sorti l'année dernière, et elle disait en fait, moi ma peur, et je pense que ça devrait être la mienne et celle de tous, c'est pas la routine, mais c'est de laisser les petits murs se construire autour de moi les uns après les autres et de finir dans un truc fermé. Parce que c'est ça qui fait peur, en fait. C'est que les lumières s'éteignent et que tu sois dans une pièce fermée. Mais il y a moyen de pas laisser... de faire tomber les murs. Enfin, j'ai des métaphores parce que c'est comme ça que je le vois dans ma tête. J'ai l'impression que... Et parler avec des personnes âgées, ça permet vraiment de faire tomber des murs, notamment cette peur de la vieillesse. Je me dis, mais... En fait, ils sont comme moi, c'est juste qu'il y a 30 ans de plus, et puis ils en sont un peu plus proches. Mais finalement, j'en sais rien.
En plus, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on en sait ?
J'en sais rien.
Mais est-ce que tu penses que toutes ces personnes-là, tu dis qu'elles sont toujours curieuses, qu'elles font plein de choses, qu'elles ont plein de projets, machin. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui s'acquiert justement avec l'âge où, est-ce que c'est des gens qui ont été comme ça toute leur vie? Ou est-ce que c'est plus on approche de la fin, plus on se dit
Pas le temps, j'ai pas le temps.
Voilà.
Non, moi j'ai l'impression que c'est des gens qui ont été quand même dans des. Mais qu'il est jamais trop tard, mais qui ont été quand même dans des logiques comme ça un petit peu toute leur vie.
Mais du coup, si tu l'es pas, il n'est pas trop tard?
Non, je crois vraiment qu'il n'est pas trop tard. Je crois que justement, rien que discuter. Par exemple, moi, il y a des thèmes. Alors, c'est pas en relié exactement avec la mort, mais. J'ai eu des illuminations pendant Vieille Branche. J'ai eu l'illumination de ce que ça avait été, par exemple, les années SIDA, où j'avais toujours écouté...
Enfin, j'ai lu Joe, cette BD horrible. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu quand ils étaient ados. Joe de Derib, je crois. Enfin, on a grandi. Moi, je suis née en 87. On a grandi avec le sida. On sait ce que c'est, etc. Mais j'avais jamais capté. Et c'est en parlant avec le fondateur de AIDS que j'ai capté ce que c'était d'aller au cimetière 3 fois par semaine pour aller enterrer des potes à 30 ans et ce genre de choses. Et tout d'un coup, j'ai eu un déclic dans la tête en me disant « Ah, maintenant que je peux me relier humainement à ce que cette personne a vécu, bah, je comprends ce que c'est. » C'est comme... enfin, tout d'un coup, c'est plus une partie d'histoire. Tout d'un coup, c'est un truc humain qu'on pourrait vivre aussi. Et d'ailleurs, qu'on vit un petit peu avec le coronavirus en ce moment.
Oui.
Voilà. Donc, et ces illuminations, ces trucs où tu parles et où tout d'un coup, tu comprends, bah, moi, je trouve que c'est tellement puissant que ça a poussé, en fait, ma peur de la mort un peu plus loin. C'est ce que je te disais, en fait, quand on en a parlé la première fois, c'est que moi, j'y suis allée en me disant, je vais leur parler de la mort à mort, je vais leur dire, mais comment vous faites? Mais vous allez bientôt mourir. Expliquez-moi comment vous conjurez cette peur en vous levant le matin. Vraiment, je me disais, ça va être trop bien, je vais pouvoir le faire en toute décontraction. En leur disant, je suis là pour ça, pour que vous m'expliquiez comment on va mourir. Et en fait, c'est devenu un peu un sujet... c'est un sujet, mais c'est un petit sujet, quoi. C'est pas ça le plus intéressant. Et en plus, je pense qu'il y a une vraie différence entre notre génération et la leur. En plus, j'ai plusieurs générations, moi, parce que 70 ans, c'est pas les mêmes gens qui ont 90 ans que ceux qui ont 70 ans. C'est pas les mêmes guerres, c'est pas... Ouais. Il y en a qui ont grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui l'ont pas connu. Enfin, mais il y a quand même un rapport à la mort qui est pas le même, quoi. Ouais. Et ce qu'elles disent à peu près toutes, d'ailleurs, c'est mais... Moi, je trouve que la vie, c'était mieux avant. Parce qu'on leur pose la question, est-ce que c'était mieux avant? Il y en a beaucoup qui disent, bah ouais, déjà, on vit vachement plus longtemps, quoi. Enfin, c'est con, mais on n'y pense même pas. On vit vachement plus longtemps. On a du temps, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est pas forcément une bonne chose.
Bah, je sais pas. Je pense que pour elles, en tout cas pour ces personnes qui ont 90 ans, elles sont contentes.
Après, c'est vrai que... Non, mais c'est tout le fameux débat de...
C'est un rapport différent à la vie. Quand t'as une vie où t'as la mort qui est là tous les jours autour de toi, ou quand c'est un truc un peu tabou et lointain,
ouais.
Ce qui est aussi une mauvaise chose, on est d'accord, mais t'as quand même un rapport différent au projet que tu fais, à la vie que tu mènes.
Oui, c'est sûr. Différent. Mais c'est marrant parce que le... Ta fameuse métaphore, tu fais les lumières s'éteignent, les murs se foutent. Enfin, tu as peur d'être enterrée vivante, en fait. Oui. Parce que vraiment, je t'imaginais comme ça, comme Dracula dans son cercueil.
Merci, heureusement que...
Mais du coup, tu n'as plus peur de la mort?
Si, bien sûr que j'ai peur de la mort. D'ailleurs, ça m'exaspère qu'il n'y en ait aucun qui ait peur de la mort. Des vieux. Ça m'exaspère, vraiment, je les soupçonne vraiment de me mytho. Mais vraiment, je me dis, mais c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui mentent, c'est sûr. Non, mais par contre, ce qu'ils disent tous, c'est sûr, c'est la vieillesse, c'est la déchéance physique qu'ils craignent.
Oui, oui, bah, logique.
Évidemment. Mais voilà. Non, si, j'ai encore très peur de la mort, mais on va en venir dans une troisième partie, mais on a toutes les deux eu un enfant cette année.
Oui.
Et ça a changé toutes les deux notre rapport à la mort dans une trajectoire que j'aurais pas...
Oui, ça s'est croisé. On pensait qu'on allait se rejoindre et non, pas du tout. On est les deux partis à l'opposé.
Et toi, le fait de recevoir plein de messages de gens, parce que de gens qui te parlent de leur propre rapport à la mort, parce que je pensais à Charlotte Pudlowski qui vient de finir au Pôtre une nuit et qui me disait la pauvre, et c'est normal, je sais pas si vous l'avez écouté, mais... Si on a eu des histoires comme ça dans sa famille et tout, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de lui écrire. Donc elle se retrouve sous 500 messages, 1000 messages d'histoires affreuses et très douloureuses qu'elle doit gérer un peu toute seule dans son coin. Du coup, je me suis posé la question pour toi.
Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me font des récits de mort, mais comme c'est un truc qui m'a jamais, mais jamais dérangé, au contraire, il y a toujours une espèce de fascination morbide. Alors, pas sur ces histoires-là, je vous rassure, je suis pas en train de regarder vos DM en disant « Ah, trop stylé !» Quelle tragédie! J'en suis pas là. Mais en fait, j'ai toujours eu un intérêt déjà pour la vie intime et personnelle des gens. Et la mort, c'est quand même extrêmement intime et personnel. On le partage très peu. Et du coup, je trouve ça. Enfin, je me sens honorée d'être le réceptacle de ces histoires-là. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auront ce privilège en dehors de leur cercle intime. Que c'est un rapport de confiance qui s'installe alors qu'on ne se connaît pas, à part à travers ce podcast ou les autres œuvres que j'ai pu faire. Et j'ai perdu le fil, je vais le retrouver.
Tu disais que tu vas le retrouver.
Ouais, ça vient.
C'est un honneur.
Oui, voilà. Et ça me permet aussi de relativiser pas mal sur pas mal de choses. Alors déjà, moi j'ai un biais horrible sur lequel je travaille beaucoup. Ça va vachement mieux maintenant à cause de mon père qui m'a toujours élevée en me faisant croire que j'étais unique, spéciale et extraordinaire.
C'est un nom ça maintenant.
Oui, c'est
le phénomène de croire qu'on est unique, mais je crois qu'on a vraiment tous ce problème.
C'est une génération de merde. Bref, non, mon père a vraiment, en fait, il était donc extrêmement narcissique, il était sociopathe, diagnostiqué. Donc, pour lui, j'étais une projection non seulement de sa grandeur et sa perfection à lui, mais aussi l'idéal féminin que lui ne pouvait pas être. Et du coup, il pouvait façonner à travers moi. Il a complètement foiré. Hein. Vraiment, il a fait cette trajectoire-là. Moi, j'ai fait « Hey, cool !» Mais bon, d'ailleurs, il aurait détesté ce podcast, il aurait détesté le projet, tout. Génial. Ah, c'est mon émancipation. Et bref, du coup, il m'a fait croire que j'étais unique et extraordinaire. Il m'a dit « Mais tu sais, Taous, toi, tu seras toujours en marge. Tu pourras jamais vraiment connecter avec les autres parce que tu ne seras jamais vraiment comme eux. » Et moi, j'ai grandi en pensant ça et en me disant « Ah, je suis vraiment super unique. » Et donc, j'ai commencé à écrire des articles sur Mademoiselle, très personnels, où je racontais des histoires en me disant « Les gens, ils vont lire ça, ils vont se dire « Waouh, quel personnage exceptionnel !» Et en fait, toutes les réponses, c'était « Waouh, je pensais être la seule, mais moi aussi !» Et au début, je faisais « Non !» Pas comme moi, tu crois, mais pas comme moi. Et en fait, ce genre d'expérience-là, en fait, je ne recherche que cette sensation-là de pouvoir créer du contenu qui fait dire aux gens « Putain, je pensais que j'étais seule ou la seule, et en fait, non, et ça fait du bien. » Et donc, j'ai réussi à retourner ce truc-là à travers ça, et notamment à travers la mort, où j'avais une histoire de mort qui me semblait extraordinaire. Et en fait, bah, quand je lis les témoignages des gens, bah, « Putain, la mort, ça peut être extrêmement banal, comme... vraiment spectaculaire et je ne suis qu'une une micro, même pas une goutte d'eau, je suis un postillon de poisson dans l'océan, rien de plus. Et encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est tout un trajet de retour à l'humilité parce que j'ai régulièrement besoin de redescendre d'un cran et me dire non, tu n'es pas exceptionnel, tu n'es pas un génie. La vie l'a suffisamment fait, hein, c'est bon, il n'y a pas besoin de... C'est pas un appel à l'aide, ne me remettez pas les pieds sur terre, ça va très bien pour ça. Mais voilà, et du coup, je reçois des messages où parfois, t'as une personne qui me dit « Ah, bah moi, j'ai 26 ans et je viens de perdre mon compagnon d'un cancer. » Et là, je fais « Hein ?» Donc moi, je suis en train de pleurer sur mon père qui est mort à 60 ans. En vrai, on s'en fout, il est mort d'un cancer parce qu'il fumait, encore une fois. Et lui-même, quand il a appris son diagnostic, il a fait bah, « Franchement, je ne vais pas me mettre à genoux en disant « Pourquoi ?» Bah, oui, pourquoi ? Parce que j'ai fumé, je le savais très bien. Donc, ce n'est pas une tragédie en soi, la mort de mon père. Et je reçois des messages comme ça où tu te dis « Là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une histoire qui était « Ma mère est rentrée à l'hôpital pour faire des radios parce qu'elle avait mal au dos. Au bout d'une semaine, on a appris qu'elle avait un cancer. Une semaine plus tard, elle était morte. » Ouais. La bonne journée. Et en fait, quand je reçois ces messages-là, je ne peux pas dire aux gens « Ah, bah, super ambiance, merci !» Alors que ça se trouve, je suis au fond du trou et je lis ça, et je suis encore plus au fond du trou. Parce que quand je lis ça, je ne lis pas la tragédie qui est racontée, je lis vraiment la confiance de la personne, le besoin de parler, le besoin de se sentir accompagné, écouté, respecté, et tout ce que moi, je ressentais aussi quand j'étais en deuil. Et je me dis, je ne peux pas, après avoir créé un truc comme ça, fermer mes portes priver les gens de cette expérience d'écoute. Et du coup, j'essaye, à ma façon, autant que je peux, de mettre au moins une petite phrase réconfortante que je pense vraiment sincèrement. C'est pas genre les réponses enregistrées sur Instagram où je fais un copier-coller. Quelle horreur. Mais voilà, c'était une très longue réponse, mais parce que je pense que c'est vraiment un aspect très important.
Le podcast,
ouais.
Se relier...
Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là et à être à ce point-là plongé dans l'intimité des gens. Et j'en suis vraiment sincèrement flattée, honorée, et j'espère respecter les personnes qui font la démarche de me raconter ces histoires-là, parce que je sais à quel point c'est important, quoi.
Oui, mais je pense que c'est quand même, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, ce que je veux dire, mais merci, rien pour cette expression. Les podcasts, ça permet vraiment de relier des gens qui sont en îlot, moi j'ai l'impression,
ouais.
Qui ont l'impression d'être des îlots, qui ont l'impression d'être seuls. Et ça marche pour la dépression aussi.
Oh là,
disais, oui. En ce moment, je sais pas si vous avez tous les gens sur scène qui parlent de dépression. Et quand on commence à en rigoler, et toi, il y a beaucoup d'humour dans Mortel, quand même. Quand on commence à en rigoler et à se dire, oh là là, je suis pas tout seul. Tu quand même, t'as l'impression d'avoir atteint un but avec ton podcast. Et ça me fait penser à cette citation de Marina Rollman qu'on s'est dite avant de venir, et que j'ai envie de vous dire, alors qu'elle a peu de rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais qui m'a fait beaucoup rire.
mais parce qu'elle dit bien ce que c'est, et tu disais, mais c'est exactement ça la dépression. Elle disait, la dépression, c'est avoir envie de se tuer, mais avoir vraiment la flemme. Mais vraiment la flemme. Voilà, donc je pense que c'est des trucs qui sont importants. Je crois qu'on va passer au futur. Je crois que c'est des sons de vieilles branches, de moi qui parle avec des gens qui sont en train de vieillir et de justement comment apprendre à vieillir.
Je comprends pas tout le temps, surtout la nuit. Je comprends pas pourquoi il n'est pas là et pourquoi il n'est pas encore couché. Pourquoi il, oui, c'est mais encore cette nuit, c'est tout le temps. Il y a quelque chose. Il y a des moments où on, pourquoi il n'est pas là? Où est-ce qu'il est? Il est et même cette nuit, j'y pensais d'ailleurs. Je me disais, peut-être qu'il couche pas là, peut-être qu'il a une chambre à côté. Mais c'est vrai, c'est drôle qu'il soit plutôt la nuit.
C'était Sabine Weiss, qui est une grande photographe. Si vous connaissez pas son travail, vous pouvez aller regarder. À 94 ans, quand je l'ai interviewée, elle doit donc en avoir 96 maintenant, parce que c'était c'était ma deuxième vieille branche. Et elle parlait là de son mari. Avec qui elle vivait dans la maison dans laquelle on était depuis 1949. Alors déjà, tu fais « waouh ». Elle te raconte qu'ils n'avaient pas l'eau, donc elle vivait dans la même maison depuis 70 ans, et elle racontait, mais je trouve que là, je l'entends parce que je l'entends de l'extérieur, mais sur le moment, ça m'a semblé moins triste. Vraiment, c'était moins triste. Elle disait « il est là, en fait ». Elle disait « il est encore là », et par contre, elle répondait à une question qui était celle de l'irréalité de la mort, parce que moi c'est un truc que je trouve très vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand la vie reprend, mais il n'y a pas que ça. Il y a le côté trop bizarre, c'est pas vrai. Et toi, d'ailleurs, tout le premier épisode de Mortel, c'est, c'est sur la photo que tu as prise de ton père mort, que tu trimbales partout. Non, mais donc.
Oui, mais aussi, j'en ai besoin.
De dire,
c'est un point d'ancrage. Parfois, j'ai revisité cette photo, alors, pas longtemps et pas beaucoup, mais au début, je me la suis envoyée par mail. Je l'ai mise dans un dossier à part. Pour pas retomber dessus quand je cherche mes déclarations d'impôts. Mais j'ai eu besoin d'aller revoir cette photo pour dire « Ah oui, c'est vraiment arrivé. » En fait, ouais. Et je me remettais cette vision de lui mort, parce qu'en plus, comme je te disais tout à l'heure, je rêvais de lui vivant. Donc mon cerveau était... Et comme en plus, on s'était pas parlé depuis 3 ans avant, c'était encore plus difficile de ressentir l'absence, parce que j'avais l'habitude qu'il soit absent, en fait. Donc...
Il y a un livre de Joanne Didion sur pareil, la mort de son mari, ça s'appelle L'année de la pensée magique, où elle raconte exactement ça. Elle dit, tous les jours, j'ai l'impression qu'il arrive et qu'il va poser ses pompes et que ça va continuer. Mais je ne pensais pas que c'était ça le son, hein, pour être honnête avec vous. Parce que c'est un peu dark. Mais c'était plutôt sur le côté à apprendre à vieillir. Et je voulais en venir à cette histoire de maternité, parce qu'on a toutes les deux été maman cette année. Toi, 2 mois avant moi, je crois.
Ouais, je crois. Moi,
3 mois avant moi. Et je t'ai dit, mais alors toi, ça a changé ton rapport à la mort ? Question à laquelle tu m'as répondu.
C'est fluide. Oui, ça a changé mon rapport à la mort, évidemment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mourir. Parce que je me suis dit, putain, si je meurs là, c'est chaud. Parce qu'elle est petite, elle a besoin de moi. Et certes, elle a un père qui est génial et qui assure. On a tous les deux des familles qui sont là, mais on ne remplace pas un parent comme ça, quoi. Et surtout, j'ai envie aussi d'assister à... Enfin, j'en ai chié pour lui donner naissance, déjà. Enfin, pas tant que ça, parce que j'étais sous anesthésie générale, mais bref, c'était quand même pénible. J'aimerais bien voir le résultat. Ah, c'est pas juste faire un bébé pour dire « ça y est, c'est fait, suivant ». C'est pas un livre, quoi. Je relis pas mes livres, mais par contre, j'ai bien l'intention de voir mon enfant grandir. Et je t'avouerai que j'ai eu des moments où j'avais des soucis de santé qui finalement sont pas graves. J'ai juste une boule de gaz dans le côlon. Voilà, j'ai juste des proutes coincées qui veulent pas sortir. Et j'étais persuadée que j'avais un cancer, une tumeur et tout. Le seul truc marrant qui s'est passé pendant l'IRM, c'est qu'ils ont pas trouvé mon rein droit. Mais bon, apparemment, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment, je suis passée de « Ah, non, vraiment, c'est pas grave, c'est juste ridicule. » Et tant mieux, mais pendant des mois, je me suis dit « Ça se trouve, mon corps est en train de mourir et je suis pas encore au courant. » Et là, vraiment, pendant des mois, je me suis dit, mais putain, mais comment mon mec va faire avec ce deuil horrible? Comment il va pouvoir continuer à élever notre fille dans la tristesse? Potentiellement, si elle me ressemble, en plus, il va me voir dans ses yeux, ça va être terrible. La mort, c'est très romantique. Fantasmé. Pour moi. J'ai un peu fantasmé, c'est vrai. Je le visualisais avec elle, mon enterrement, tout. Bon, bref. Et je me suis dit, putain, en vrai, c'est chaud. Parce que pendant très longtemps, ces visions-là, je m'endormais avec en faisant. Et là, vraiment, je me dis, j'ai pas très envie. J'ai vraiment pas très envie de mourir. Et c'est nouveau pour moi cette sensation de pas avoir envie de mourir, parce que
c'est bien.
Déjà, je suis sortie de ma dépression, je suis guérie. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Merci. Donc déjà, ça faisait 15 ans que je me réveillais tous les matins en disant, oh non. Et là, ça y est, ça faisait un moment que ça s'était arrêté. Et en plus, maintenant, j'ai une raison de vivre. Il y a des moments où je me dis, tu sais, par exemple, la question de qu'est-ce que tu ferais s'il y avait une invasion zombie, pendant très longtemps, ma réponse c'était je me tue. Je regarde par la fenêtre, je fais allez, bye. Quel intérêt de vivre dans un monde apocalyptique? Des gens qui disent oui, mais c'est pour reconstruire. Reconstruire quoi? Il n'y aura pas de tampon, déjà. Non. Sauf que là, maintenant, je me dis, s'il y a une invasion zombie, je suis encore plus dans le merde parce que j'ai un bébé. Je ne peux pas dire, bon courage, moi je me casse. Donc voilà, ça a changé beaucoup de choses dans mes fantasmes de mort. Je lui en veux un peu parfois, en me disant, putain, mais c'était si léger avant, c'était si cool de me dire, ah oui, je vais mourir et ça va être beau. Maintenant, je suis obligée de vieillir. Mais bon, c'est quand même pour une bonne cause, quoi. Et donc toi?
Moi, ça m'a carrément libérée. Et en fait, je pense que ça m'a carrément libérée. Je pense que ça a un rapport avec le narcissisme. Tu as parlé tout à l'heure de ton père qui était un peu narcissique, un peu. Moi, je crois que d'avoir sorti le truc, là, tout d'un coup, ça n'est plus que à propos de moi. Je pense que j'étais dans un égotisme incroyable. Et déjà, ça me sort de moi et ça me permet d'avoir moins peur de la mort. Et je m'en suis rendu compte parce que 4 mois, je pense, avant d'accoucher, j'ai une copine qui était sur le point d'accoucher qui me dit « Ah, trop marrant, on a eu cette conversation hyper morbide avec mon mec de « S'il faut sauver toi ou l'enfant, qui est-ce qu'on sauve ?» Conversation que... voilà. Et là, elle me dit « Mais moi, j'ai pas une seconde d'hésitation, je sauve l'enfant, quoi. » Et moi, j'étais enceinte de 5 mois. Je dis « Mais pas du tout, enfin, je ne connais pas cette personne. Enfin, je vais pas sauver cette personne. J'ai une vie, lui, il en a pas. Enfin, » vraiment, pendant 5 mois, je me disais « Je suis un monstre, vraiment. » Puis la réponse était super claire, quoi. Je me disais « Mais non, c'est mort. Si on me fait choisir, je ne demande même pas la vie à mon mec. C'est moi qui dis, c'est moi qui survis, quoi. » Et bon, mon enfant est né. Orso. Et 3 jours après la naissance, j'ai osé le regarder en me posant la question, en me disant « Moi, alors, si c'est toi ou lui, c'est qui ?» Et c'était lui, et je peux vous dire que je vis beaucoup mieux avec moi-même, beaucoup plus en paix avec moi-même depuis ce moment. Mais vraiment, où tout d'un coup, en fait, c'était d'une évidence et où j'avais plus à réfléchir et à me prendre la tête pendant... En plus, on en parlait avant de commencer la conférence. C'est même pas l'amour pour lui qui était évident, ou c'était pas ça qui était évident. C'était non, là, c'est sûr. En fait, je compte moins, quoi. Et peut-être pas moins, on s'en fout. C'est peut-être pas d'ailleurs du tout la bonne expression de dire je compte. Mais en tout cas, ça a éloigné ce spectre-là. Parce que moi, j'avais pas peur de la mort en mode les gens autour de moi vont mourir. C'était un truc très, très narcissique. C'était ma ouais. mort à moi, quoi. Et je pense qu'il y a un petit côté quand même, tu laisses quelque chose, quelqu'un en l'occurrence, et puis je sais pas, je saurais même pas vraiment l'expliquer, mais je sais que c'est une question qui est moins génératrice de peur, de je le cache, enfin j'y pense pas exprès pour pas commencer à baliser, etc. Ça a arrêté la panique. Après la peur, la peur restera, hein, évidemment. Tu me dis demain que j'ai un cancer. Je ne ferais pas faire « Oui, bon, je le vis bien, bon, c'est cool. Pas du tout. Mais ça a permis de bien désacraliser, quoi. Et j'étais ravie aussi, peu de temps après, de rencontrer ma première vieille branche qui m'a avoué avoir peur de la mort. Et je me suis dit « Ah, quand même, il y en a bien une. » C'est Orlan, qui est donc une artiste contemporaine et qui, elle, a fait une pétition contre la mort.
on va être honnête, c'est contre la sienne principalement, j'ai l'impression. Mais donc, elle est très passionnée de biotechnologie, etc. Donc elle est complètement dans ce qui, toi, te fout des frissons à n'en plus finir.
Tout ce qui est transhumanisme et tout ça, là.
Et alors, pour arrêter de vieillir, parce que je sais que cette partie devait être consacrée à comment on fait au jour le jour, comment t'as conjuré tes peurs, etc. Est-ce que t'as une réponse déjà à ça?
C'est accepter que tout est hors de notre contrôle. Et en fait, non pas pour faire l'apologie de la parentalité, parce que franchement, si vous voulez pas d'enfants, c'est très bien pour vous, je le respecte, et c'est probablement une très bonne idée. Mais être parent, ça aide à lâcher prise, parce que t'as pas la force.
Ah, t'as pas le temps.
T'as pas le temps de te triturer en disant oui, mais peut-être, mais je sais pas. C'est non, tu sais quoi, vas-y, manger, t'as dormi, t'as caca, du pipi.
C'est vrai que la question du sens de la vie, moi, depuis, m'a complètement.
J'ai plus le temps pour ces conneries. Alors qu'avant, je me tournais pendant une heure et demie dans mon lit. Maintenant, c'est. Mais à part ça, c'est génial d'être parent. Hein. Pour de vrai, j'adore. Mais bon, c'est un peu fatigant, mais ça permet. Après, ça dépend, hein, parce que voilà, on l'a vu, on réagit pas tous pareil à la parentalité. Mais dans mon cas, en tout cas, ça m'a permis un lâcher prise. Donc, déjà, j'ai jamais été aussi sereine que quand je suis tombée enceinte. Alors que normalement, c'est le phénix de toutes les angoisses. Et vraiment, j'ai passé la majeure partie de ma grossesse à dire. J'ai pas d'appart, elle a pas de chambre, elle a pas de lit, je sais pas comment elle va s'appeler, mais c'est pas grave, on va trouver, j'ai pas de thunes, je sais pas ce que je vais gagner le mois prochain, on va trouver une solution. Alors que vraiment, c'est pas du tout dans ma nature. Donc je pense que c'est, je sais pas, il y a un truc qui se passe chimiquement pendant la grossesse qui est fait pour nous préserver.
Génial, ouais.
Et une fois qu'elle est là, bah, tu te dis, bah, de toute façon, là, ma priorité, c'est faire les choses dans l'ordre, respecter son rythme, et moi, on verra après. Et en fait, ça fait du bien. Parce que du coup, chaque moment que je prends pour moi, je le kiffe vraiment. Et j'ai plus le temps de passer des heures à me rouler dans mes angoisses en disant, oui, mais peut-être, mais si jamais, mais alors attends, parce qu'à un moment, t'as dit ça, et du coup, l'autre, il va penser ça. Mais c'était quand? C'était il y a 6 ans. Ça me fatiguait. Mais c'est bon, maintenant je suis fatiguée, mais différemment. Mais en tout cas, nerveusement, je pense que je vais mieux.
T'as gagné en point de vie.
Ouais.
Je pense que ça se rejoint, c'est le côté. Vraiment, c'est pas. Enfin, moi, là où ça rejoint, par exemple, les interviews des vieilles branches, c'est vraiment le côté sortir de soi. Et d'ailleurs, il y en a une qui me l'a dit, ça, qui était pas du tout angoissée de la vie, mais alors pas du tout. Et qui, j'arrive plus à me rappeler qui c'est, mais qui m'a vraiment dit la solution pour être heureux, c'est vraiment de sortir de soi, quoi. D'être pas dans l'ego permanent. Et d'ailleurs, j'ai lu une étude là il y a pas longtemps. Ils ont un truc terrible où ils croisent via des grands serveurs toutes les données. C'est des laboratoires aux États-Unis. Toutes les données des réseaux sociaux. Et ils classent les mots selon si ça dénote du bonheur, du malheur, etc. Et en gros, ils ont donc déclaré, par exemple, que cette année, le jour le plus triste collectivement, ça a été le 31 mai 2020, sachez-le. Vous pouvez regarder dans vos historiques.
C'est l'anniversaire de mon père.
Ça a été triste.
Bon, j'avais autre chose à foutre.
Voilà. Donc, dans cette étude, ils disaient qu'ils avaient trouvé une énorme corrélation entre l'emploi de la première personne du singulier et le malheur, enfin et la tristesse et la dépression postpartum d'ailleurs. Donc sortir de soi, je pense que vraiment.
Mais, de toute façon, c'est aussi ce que les intervenants de Mortel disaient. On posait aussi tout le temps la question à la fin de est-ce que vous avez peur de la mort, et majoritairement ils ont dit non. Le point commun qui est beaucoup revenu à la raison pour laquelle ils n'avaient pas peur de la mort, c'est parce qu'ils avaient adopté un mode de vie, que ce soit philosophique, spirituel, un peu des deux, proche du bouddhisme. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça la solution du bonheur, mais bon, pas faire de prosélytisme bizarre non plus. Mais je pense qu'il y a vraiment des clés, par contre, philosophiques hyper intéressantes dans cette culture-là, parce que ça permet. Je pense que ça rejoint ce truc de sortir de soi et de considérer le monde autrement et sa place dans le monde autrement. Et en fait, ouais, il y avait vraiment ce truc de. J'ai pas peur parce que ça n'a pas de sens d'avoir peur d'un truc qui me dépasse et que je ne peux pas contrôler et qui, de toute façon, me définit, quoi.
Oui, c'est ça, c'est une phrase d'ailleurs de. C'est aussi une vieille branche, un des derniers qui me l'a cité, Greg Germain qui citait Shakespeare en disant « Mais ça veut dire quoi d'avoir peur d'un truc qui, de toute façon, va arriver ?» Et ça fait un lien parfait avec moi, ma dernière technique de ouf pour pas avoir peur dans la vie en général. Mais tout le monde ne peut pas le faire, c'est que c'est la radio. Parce que moi, je fais de la radio et avoir un direct à 18h tous les jours, bah, ça fait que quoi qu'il arrive, que tu sois prêt ou pas. Et l'accouchement, je l'ai pensé comme une émission de radio. Je me suis dit, de toute façon, il y a un moment, le truc va vouloir sortir. Et que je sois prête ou pas, que j'ai fait mes 50 exercices prénataux, ou pas, que j'ai écrit ma chronique ou pas, je serai à l'antenne et je devrais parler. Quoi. Ouais. Et le truc arrivera et ça arrivera à ce moment-là. Et la vieillesse, c'est pareil. C'est exactement pareil que la radio. Non, mais chacun ses trucs. Non, mais c'est exactement pareil. C'est juste... Il y avait une nana sur Twitter là, il n'y a pas très longtemps qui disait que écouter Vieille Branche, pour elle, ça ravivait vachement sa peur de vieillir. Et honnêtement, bah, moi, c'est vraiment le contraire. Quoi. J'ai compris que les choses, elles arriveraient quand elles arriveraient. Et que les gens, quand ils ont 80 ans, bah, ils pensent la même chose. Et il se trouve que la mort, elle n'est pas plus proche d'eux qu'elle est de moi, au final.
Mais c'est marrant parce que moi, j'ai remarqué qu'entre avec mes copines... On est une grande majorité à avoir super hâte d'être vieille. Et au début, je me disais que c'était juste parce que bah on avait envie d'être comme dans la série Grace and Frankie avec Jane Fonda et Lily Tomlin. Oh, je les aime tellement. Regardez, s'il vous plaît. Genre vraiment des petites vieilles un peu excentriques, faire de la poterie, de la peinture. Et en fait, je pense que c'est... On va partir dans un tout autre sujet, pardon, hein, mais je pense que c'est juste... extrêmement fatigant d'être une femme, extrêmement fatigant d'être regardée, d'être jugée. Et plus t'avances dans la vieillesse, moins on en attend de toi, notamment physiquement, sexuellement, tout ça. Et je pense que c'est une telle libération d'avoir les seins sur les genoux et de faire « Eh ouais, tout le monde s'en fout, personne ne me regarde dans la rue. » Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui, moi, me rassure, parce que j'ai jamais eu peur de mourir, mais, enfin, de la mort et de ce qu'il y a après. Mais par contre, effectivement, la déchéance, voilà, ça me... Bah, je ne peux pas rêver non plus. Et quand je le visualise comme ça, en me disant « Ok, mon corps dans le miroir, quand je le regarderai, j'aurai peut-être mal au cœur, j'aurai peut-être des moments où je me dirai « Oh, c'est pas fou quand même. » Mais je sais aussi que ce sera la signification d'une libération totale parce que je n'en peux plus encore aujourd'hui, à ce stade de ma vie, de continuer à me regarder en me disant « Ta narine quand même, elle est un peu asymétrique. » Ça me gonfle, mais ça me gonfle d'être toujours dans ces pièges-là. Et je pense qu'à 70 ans, si déjà j'arrive à avoir encore une narine qui fonctionne, ce sera pas mal. Et je me contenterai de ça et ce sera merveilleux. Et je pense que c'est aussi une bonne façon de... Pour les hommes, je sais pas, et je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais... Une bonne façon d'aborder le vieillissement, c'est de voir toute la paix et la sérénité qu'on va y trouver.
Si tu veux mon avis, Jane Fonda dans Grace and Frankie, elle est oui, pas bon, hyper sereine. Hein.
Non, d'accord. Je pensais plus sur Lily Tomlin. Tu vois, c'est plus ça mon modèle. Vraiment, les cheveux sont déjà là, ils n'ont plus qu'à devenir gris. C'est merveilleux, je n'attends que ça. Ah, oh, ça va être bien d'être vieille.
Voilà, bon, on va terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions, des trucs que vous voulez nous demander. Je ne sais pas si on a un micro à faire passer. Je regarde.
Alors, c'est une question pour Marie.
Ouais,
je vois. Est-ce que vous avez peur de la mort de vos vieilles branches? Et est-ce que vous y avez déjà été confrontée?
Alors, très bizarrement, non. Elles sont très résistantes. Non, mais c'est vrai. Pendant le coronavirus, j'ai quand même eu un peu peur. Non, il y a eu Manu Dibango où j'étais très 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 triste parce que c'est quelqu'un en plus que je connaissais via Radio Nova qui devait répondre à Vieille Branche et donc voilà, il est mort pendant le coronavirus avant. Sinon, est-ce que j'ai eu très peur pour Henri Dess parce que Henri Dess, je l'ai vu, il avait une santé de fer et il me l'a vraiment dit. Mais en plus, il a 79 ans, il a vraiment l'air d'en avoir 50. Et il m'a vraiment dit, bah, moi j'ai une chance dans la vie, c'est que vraiment j'ai une santé en béton et tout. Et 5 jours après, il a fait un arrêt cardiaque. Donc j'ai eu vraiment peur pour lui, ça m'aurait fait vraiment de la peine. Mais après, honnêtement, bah, heureusement que non. Quoi. Enfin, heureusement que j'ai pas peur pour 40 personnes en permanence, en plus de ma famille, de mes amis et de mon enfant. Et surtout, je me dirais que c'est des gens qui ont vraiment, pour la très grande majorité d'entre eux, ont une très belle vie, super remplie, où eux, ils n'ont pas peur. Alors pourquoi moi, est-ce que je me ferais du souci pour eux?
Alors, question pour toutes les deux. Est-ce que vous pensez à votre mort et quand et comment Enfin, dans quelle situation vous imaginez mourir?
Vous avez encore une heure ou pas là?
Moi, je suis très lâche. C'est une de mes caractéristiques dans la vie. Et donc, je trouve ça plutôt pas mal le côté à un moment, t'en as marre. Enfin, je veux dire, ma grand-mère, elle a 101 ans. Elle a plus toute sa tête, mais elle a beaucoup dit depuis 3-4 ans, 30 ans, bon, j'en ai marre, quoi. Vraiment, c'est bon, c'est terminé. Donc ça m'irait pas trop mal de m'en aller quand j'en ai marre. Si je pouvais imaginer la meilleure façon, ce serait là. Après, c'est pas celle que j'imagine dans mes terreurs nocturnes, mais ouais, ce serait ça vraiment. Toi, c'est comment ton enterrement?
C'est vraiment très classique. Moi, je veux mourir dans mon sommeil, vieille et heureuse, et encore valide, de préférence. Du coup, c'est bien parce que ça va dans le sens des transhumanistes qui disent « Oui, mais n'essaie pas forcément vivre immortel, c'est vivre très longtemps et en bonne santé. » Oui, peut-être pas trop longtemps quand même. Mais par contre, non, sur mes funérailles, j'ai une liste qui n'arrête pas de changer.
En même temps, tu sais qui va faire des discours ou pas? Dans l'idéal. Moi, j'avoue que je serais un peu triste si tout le monde meurt avant moi.
Quoi, ce que je trouverais très marrant, c'est d'en pré-enregistrer mon discours. L'ego toujours, hein, et c'est moi qui fais mon propre discours.
Il faudrait le faire maintenant, presque.
Non, par contre, il y a plein de trucs que j'aimerais bien être enterré à même la terre, mais ça, c'est pas encore possible, ou alors avec les urnes dans lesquelles il y a des graines, ce qui fait qu'après, tu deviens un arbre, parce que déjà, je trouve ça stylé, et en plus, l'ego, encore, toujours. Ça, je peux durer des siècles, mais sous une forme qui me convient, parce que je suis pas consciente, et d'imaginer après ma fille qui vient lire un livre adossé contre le tronc, qui vient se marier devant la... Bon, bref... La meuf qui veut vraiment continuer à exister très très fort après sa mort.
Non, et sinon je trouve ça très réconfortant de savoir que le côté rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, exactement ce que tu dis, le côté moi je serai morte, mais tout ce qui fait partie, tout ce qui construit le truc, ça ce sera...
D'ailleurs, petit teaser, dans le livre Mortel, il y a toute la liste des possibilités qui existent dans le monde de façon de disposer de son corps. Il y a des trucs vraiment, je vous dis juste deux mots, compost humain. Je me suis éclatée à écrire ce livre.
J'ai une dernière question par ici. Question pour Taous. Le fait de ne pas avoir eu peur de la mort, est-ce que tu as eu l'impression de t'être mis plus en danger dans tes expériences de vie?
Eh bah, bien, pas du tout. J'ai été hyper... En fait, je pense que c'est... Comme j'en ai pas peur, je ne l'ai pas recherché. Je pense qu'il y a un truc dans les gens qui se mettent très en danger. C'est une analyse à la con, hein. Ça se trouve, j'ai tort, mais... Je me dis, c'est des gens qui, au contraire, justement, ont un frisson par rapport à ça, ont une peur, une appréhension, ils se disent « Ouh là là, peut-être je vais mourir », alors que moi, « Ouh là là, peut-être je vais mourir », c'est « Bah ouais, alors, on m'en fout, vas-y, viens, on meurt ». Donc, j'ai pas eu besoin de me mettre en danger, je me suis mise en danger psychologiquement, mais pas consciemment, parce que j'étais dans un état, de toute façon, qui était totalement mortifère et macabre, et que j'aurais pu basculer, et j'aurais pu... parce que j'avais la flemme, donc je ne l'ai pas fait. Mais non, mais en plus, je pense que je n'ai jamais vraiment voulu mourir. Je voulais juste arrêter de ressentir, arrêter de souffrir, ce qui est quand même très différent et ce qui caractérise la dépression souvent. Mais du coup, non, j'ai eu un mode de vie qui est quand même... j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'avais 16 ans. J'ai arrêté de prendre des drogues, j'avais 16 ans. J'ai commencé au début, j'ai fait un bad trip. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai repris après, hein, mais de façon beaucoup plus raisonnable. Je ne me suis jamais allée me percher en haut des immeubles, comme on en parle dans un des épisodes de Mortel qui s'intitule Le jeu de la mort, justement. Ces gens-là qui vont faire du parcours sur des gratte-ciel. Ah, ça m'énerve. Bref, je savais qu'elle était... J'ai tellement coexisté avec la mort longtemps, je savais qu'elle était là. Du coup, j'avais pas besoin d'aller la chercher parce que j'étais toujours à côté d'elle, de façon très romantique. Je sais pas si je terminerai sur cette référence de culturelle. Si vous avez vu la série Dickinson, qui est une série humoristique un peu biopic imaginée de la vie d'Emily Dickinson. Et il y a de très très belles scènes avec la mort qu'elle fantasme comme une espèce de gentleman avec sa canne et son haut de forme dans sa calèche, qui est joué par Wiz Khalifa. Ça marche vraiment bien. C'est très étonnant, mais ça marche très bien. Et elle s'imagine rejoindre la mort la nuit avec sa jolie robe de bal et ils vont se promener en carrosse. Et c'est exactement ça, moi, que j'avais comme vision de la mort. Du coup... Bah, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle me rendait visite de temps en temps. J'avais un truc, une relation romantique avec la mort.
Bon, bah, c'est fini, je crois.
Merci. Merci au Paris Podcast Festival de nous avoir accueillis sur scène. Vieilles branches et mortelles sont des podcasts de nouvelles écoutes, respectivement présentés par Marie Misset et Taous Merakchi. Retrouvez tous les épisodes des deux émissions sur vos plateformes de podcasts préférées.